VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel. Dans 10 minutes, l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord le journal. Deuxième jour de la visite historique du président américain Barack Obama à Havane pour sceller le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Le premier jour d'un chef de l'exécutif américain sur l'île antillaise en près de 90 ans. Pour la réaction des Cubains à cette visite, Jacques Aristide a joint à La Havane la professeure Judith Ogade.
L'ambiance est joyeuse. Et nous sommes très tranquilles, surtout à la maison, parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de transports, mais en général, tout le monde est content de cette visite, de ce qu'elle représente pour nous, pour les Cubains et pour le peuple aussi américain.
Rencontre ce lundi entre le président Obama et son homologue cubain, Raúl Castro. Et demain, mardi, il doit également s'entretenir avec des dissidents du régime. Est-ce l'occasion d'aborder la question des droits de l'homme?
Je ne crois pas que cela sera une bonne opportunité pour aborder ce sujet. Ce sont des personnes qui sont opposées au régime, ça veut dire au gouvernement, à l'État. Mais ça veut dire ne sont pas la majorité et ils n'ont pas non plus un poids politique. Donc la question des droits humains, ça doit surtout se poser, mais d'une façon générale, concernant le peuple en général, pas seulement un petit groupe qui se disent être opposants au gouvernement.
Qu'attend le peuple cubain de cette visite du président Obama?
Je pense que je ne peux pas parler pour tout le peuple, mais en général, les gens ont envie surtout de fermer une porte, ça veut dire la porte qui nous a éloignés depuis plus de 50 ans du peuple américain, et ouvrir une nouvelle porte qui peut représenter un bon avenir, surtout pour le peuple, pour la jeunesse cubaine.
La professeure cubaine Judith Ogade était en ligne depuis La Havane à Cuba. Le président Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont eu leur consultation. Ils s'apprêtent en ce moment même à faire une déclaration à la presse. Cour pénale internationale de La Haye, l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, reconnu aujourd'hui coupable à son procès des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Dans son verdict, la juge Sylvia Steiner a affirmé que Jean-Pierre Bemba agissait en fait en tant que commandant militaire et avait le contrôle effectif de ses troupes en RCA pendant toute la durée de l'opération. On écoute tout d'abord Mme Steiner en français avant de suivre la traduction de son interprète quand elle s'exprime en anglais.
Des soldats du MLC commettaient des meurtres, des viols et des actes de pillage contre des civils centrafricains après leur arrivée dans une région donnée dans le contexte du conflit armé qui opposait les forces loyales au président Patassé et les rebelles du général Bozizé.
Murder, rape.
Les meurtres, viols et actes de pillage commis concordent avec les preuves d'un mode opératoire employé par les soldats du MLC. La Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable des crimes contre l'humanité que constituent le meurtre et le viol et des crimes de guerre que constituent le meurtre, le viol et le pillage, lesquels ont été commis sur le territoire de République centrafricaine par les forces du MLC au cours de l'opération de 2002-2003. La Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable des crimes suivants. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, meurtre en tant que crime de guerre, viol en tant que crime contre l'humanité et pillage.
Le verdict de la juge Sylvia Steiner à la Cour pénale internationale de La Haye au procès de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. Pour la réaction des victimes au verdict de culpabilité de Jean-Pierre Bemba dans son procès, écoutons maître Edith Douzima, une des avocates des parties civiles.
C'est un sentiment de satisfaction parce que le jugement a été rendu à l'unanimité des juges. Toutes les charges ont été retenues contre Jean-Pierre Bemba qui avait plaidé toujours non coupable.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après?
C'est qu'à partir de maintenant, moi-même, la représentante légale, nous allons présenter au juge nos observations sur la peine. Et c'est au juge de décider de la peine qui sera infligée à Jean-Pierre Bemba.
Est-ce qu'on peut envisager des réparations pour les victimes?
Bien entendu, dans la mesure où il est reconnu coupable, pour le moment, ce qui est urgent, c'est la fixation de la peine. Et donc, après la fixation de la peine, on passera à la phase des réparations.
Maître Edith Douzima, une des avocates des parties civiles au procès de Jean-Pierre Bemba, au micro de d'Idriss Fall. Au Congo-Brazzaville, toujours pas de résultat après la présidentielle de dimanche dans le pays, pas de télécommunications non plus, et évoquant des raisons de sécurité et de sûreté nationale, les autorités congolaises avaient décidé hier de couper le téléphone, Internet et les SMS pour 48 heures jusqu'à aujourd'hui. Elles disent vouloir empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. L'élection présidentielle a vu 8 candidats s'opposer au chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Bénin, victoire du candidat d'opposition Patrice Talon sur le porte-étendard du pouvoir, le Premier ministre sortant Lionel Zinzou. C'est ce qui ressort des grandes tendances publiées par la Sénat, la Commission électorale nationale. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Lionel Zinsou Derlin, 1 067 109 voix, soit 34,61%. Patrice A. G. Talon, 2 015 889 voix.
Patrice Talon a été donc choisi par le peuple au détour du second tour du scrutin présidentiel. Sous réserve de la confirmation de la Cour constitutionnelle, il prendra certainement la clé de la marina des mains de Yahi Boni. Curieux destin que celui de cet homme qui, il y a 3 ans encore, n'avait certainement pas pensé être plébiscité président de la République sous les vivats et le parrainage du peuple béninois. L'autre grand homme de cette histoire reste Lionel Zinsou qui, sans attendre, la publication des grandes tendances a fait le pas du fait. Un geste bien rare en Afrique, selon ses quelques citoyens.
C'est un vrai démocrate.
C'est complètement à son actif. Nous espérons qu'il ne sera pas du reste dans le processus du nouveau départ.
Et il nous a démontré que c'est le Bénin qui gagne, qu'il est un grand homme. Il n'a pas perdu.
C'est un comportement républicain. C'est purement béninois. Une fois encore, je le remercie. Il a prouvé que le Bénin lui est cher.
Le 6 avril prochain, le successeur de Thomas Boniyahi sera investi. Tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui, selon des politologues, ne changera certainement pas assez de choses dans les grandes tendances publiées par la Sénat. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
On va maintenant au Niger. Les résultats de la présidentielle de dimanche sont attendus au plus tard demain matin. Le scrutin s'est déroulé hier sans incident majeur et tant l'opposition qui a appelé au boycott que la coalition au pouvoir. Crite ou 2 victoires. On retrouve à Niamey notre envoyé spécial Bagassi Koura. Bagassi.
Les résultats très partiels publiés jusque-là donnent une large avance au président sortant Issoufou Mahamadou sur Ama Amadou, le candidat de l'opposition. Ce qui, selon les partisans du pouvoir, est la preuve que le mot d'ordre de boycott de l'opposition n'a pas marché. Ouhoumoudou Ahamadou est le directeur de campagne de la coalition au pouvoir.
Les résultats qui sont en train de nous parvenir indique également que le candidat a recueilli des voix extrêmement importantes, en tout cas un score assez élevé, et que le mot d'ordre des mauvais perdants qui ont demandé à ce que les électeurs restent à la maison n'a pas été suivi. Et ça, c'est le Niger qui a gagné.
Une appréciation qui tranche nettement avec celle de l'opposition. Amadou Boubacar Cissé, l'un des ténors de l'opposition, estime que le peuple nigérien envoie un message clair au pouvoir.
On a eu des échos d'un peu partout sur le territoire nigérien. Et c'est vraiment le lieu de remercier très vivement tous nos militants qui ont suivi au-delà même de ce que l'on pouvait attendre, le mot d'ordre, les bureaux de vote étaient pratiquement déserts.
La CENI promet des résultats au plus tard ce mardi matin, des résultats que l'opposition a déjà juré de ne pas reconnaître. Bagassi Koura, Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, lendemain du référendum, c'est le calme plat à Dakar et dans les autres régions du pays. Le oui est arrivé en tête avec 54,63% des suffrages exprimés et le non a obtenu 45,37%. Et puis, la lutte contre le terrorisme, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé une forme très communautariste d'organisation de la commune bruxelloise de Molenbeek, qui a sans doute protégé Salah Abdeslam, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris. Il a été arrêté vendredi dernier dans cette commune de Molenbeek. Dans quelques instants, l'Amérique et vous, ce sera avec Idrissa Sedoudia. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.